L'actualité francophone cette semaine, en Suisse, le canton de Genève va régulariser des étrangers sans papier. Au Canada, des migrants de plus en plus nombreux traversent la frontière avec les États-Unis à pied. En République démocratique du Congo, des soldats auraient massacré des civils. En France, le Front National est sur la sellette pour cause d'emplois fictifs. Enfin, en Belgique, c'est une découverte scientifique qui a fait le tour du monde. En Belgique, Nathalie De Vic, vous n'avez pas choisi votre personnalité pour son exemplarité.
Pas vraiment, non. Pourtant, elle se devrait de l'être exemplaire en tant que ministre, qui plus est de l'éducation. Mais elle l'avoue, à une certaine heure de la nuit, je me transforme. Marie-Martine Schins aime faire la fête, chanter, danser sur les tables et boire un petit coup. Seulement voilà, pas de chance, la jeune ministre de 39 ans était contrôlée positive à l'alcotest 2 fois en moins d'1 an. Retrait de permis, information judiciaire. Raillée par la presse, elle s'est excusée de ses excès et promet qu'on n'y reprendra plus. En Suède, ça lui aurait sans doute coûté son poste. L'été dernier, dans les mêmes circonstances, une ministre de l'enseignement, là aussi, a dû démissionner. Dur métier qui nécessite apparemment de décompresser.
Benoît Audet, au Canada, votre personnalité de la semaine est le maire de Montréal, Denis Coderre.
Oui, il a fait adopter une déclaration qui fait de Montréal une ville refuge. Une ville refuge, c'est une ville qui offre des services aux immigrants sans papier, sans qu'ils ne puissent être expulsés. Les groupes qui défendent les immigrants disent que cette déclaration est pour le moment plutôt symbolique, mais le maire Coderre a voulu envoyer un signal fort au moment où nos voisins du Sud promettent d'expulser plusieurs immigrants illégaux.
C'est une perte majeure pour la France, ainsi s'est exprimé François Hollande en apprenant la disparition de Xavier Belin, le président du principal syndicat agricole français, la FNSEA. Xavier Belin avait 58 ans, il est mort d'une crise cardiaque à la tête de l'exploitation céréalière familiale en 1976. Il avait alors 17 ans et son père venait de disparaître. Il a ensuite été patron d'un groupe agroalimentaire. Arrivé en 2010 à la tête de la FNSEA, il fut le premier céréalier à prendre cette fonction, jusque-là occupée par des éleveurs. En 2015, lors des mobilisations d'agriculteurs contre la chute des prix du lait, du porc et l'effondrement de leurs revenus, il s'était illustré en tentant de canaliser leur colère. Xavier Belin est mort à quelques jours de l'ouverture du Salon de l'agriculture à Paris. En Afrique, le portrait collectif, Charlotte Drac, vous nous parlez du malaise des enseignants en Guinée.
Des enseignants qui sortent de 3 semaines de grève pour des questions de salaire et l'intégration de professeurs vacataires, un mouvement marqué par de violentes manifestations, 7 morts au total. Monsieur Diallo, par exemple, est professeur de biologie depuis 10 ans, payé l'équivalent d'un peu moins de 200 euros par mois. Sans plan de carrière, est difficile de joindre les deux bouts. Un accord a finalement été signé entre syndicats et gouvernement, mais le texte n'est pas accepté par tous les enseignants.
En Suisse, Pierre Anchoffa, c'est la petite Heidi qui refait parler d'elle.
Et il ne s'agit pas d'une énième adaptation de l'histoire de la petite orpheline qui retrouve le bonheur avec son grand-père dans l'air pur d'un alpage en Suisse orientale. L'héroïne imaginée par Johanna Spyri à la fin du 19e siècle est en fait l'objet d'une querelle de clochers entre 2 cantons alémaniques. Le fameux roman ne laisse aucun doute, Heidi vit sur les hauts de Mayenfeld dans les Grisons. Elle y dispose d'ailleurs d'un village à son nom. Mais un parc d'attractions consacré à l'icône mondialement connue devrait voir le jour non loin de là, dans le canton de Saint-Gall, une hérésie qui sera vite pardonnée si le succès est au rendez-vous et que les 2 cantons profitent des quelques 200 000 touristes supplémentaires escomptés.
En Suisse, Pierre Anchoffa, le canton de Genève va régulariser par centaines des étrangers sans papier, et c'est important de le préciser, avec le soutien de la Confédération.
Oui, les autorités fédérales ont en effet un droit de veto en la matière. Genève en avait fait l'amère expérience il y a 10 années. Depuis, la socialiste Simonetta Sommaruga a remplacé l'UDC Christophe Blocher à la tête du département concerné. Et Berne a cette fois décidé de desserrer un peu l'étau pour aider les Genevois dans leur lutte contre le travail au noir. Car il s'agit bien d'une question de marché du travail. Dans leur grande majorité, ces étrangers en situation irrégulière ne relèvent pas du domaine de l'asile.
Et donc les critères pour se régulariser se sont beaucoup assouplis ?
Attention, il n'y aura pas d'action collective. Chaque cas soumis par le canton de Genève sera examiné individuellement par la Confédération. Et les candidats à un permis de séjour, après 5 ans de présence en Suisse, s'ils ont des enfants, 10 si ce n'est pas le cas, ces candidats devront prouver leur parfaite autonomie financière, leur bonne intégration par leur maîtrise du français, ainsi qu'un casier judiciaire vierge. Pour le coordinateur du collectif des sans-papiers, Alessandro De Filippo, Les critères restent durs, mais c'est enfin la reconnaissance de toute une économie souterraine.
Ça fait des années qu'il y a des milliers et des milliers de personnes sans statut légal qui travaillent dans différents secteurs de l'économie ici à Genève, qui sont importants, qui participent à la production de la richesse, mais qui ont moins ou pas de droits. Et c'est important de reconnaître cette réalité.
Cette opération baptisée Papyrus pourrait avoir des suites ailleurs en Suisse romande, alors que du côté alémanique, on craint davantage l'appel d'air que cela pourrait créer pour de nouveaux clandestins.
Au Canada, le phénomène des migrants qui traversent la frontière à pied à partir des États-Unis a pris de l'ampleur au cours des derniers mois. Même si le phénomène n'a rien à voir avec la situation en Europe, les autorités sont sur un pied d'alerte, particulièrement dans les provinces du Québec et du Manitoba. Benoît Audet, qu'est-ce qui est à l'origine de cet afflux de migrants?
C'est un phénomène qui existe depuis toujours, mais disons que l'arrivée au pouvoir de Donald Trump pousse de plus en plus de gens à trouver refuge dans un pays qu'ils perçoivent comme plus accueillant. Une entente lie le Canada et les États-Unis. En vertu de cette entente, si un migrant se présentait à un poste frontalier canadien, il serait refoulé aux États-Unis, considéré comme un pays sûr, alors qu'on ne peut le faire s'il a déjà les pieds en sol canadien.
Alors bien sûr, cette aventure ne se compare pas à la traversée de la Méditerranée, mais il y a quand même des risques pour les migrants.
Oui, en raison de l'hiver et particulièrement dans la province du Manitoba, les migrants doivent marcher des heures dans les plaines sous des températures glaciales. Il y a même eu des cas d'amputation en raison des engelures, mais quand même, ça n'arrête pas les plus déterminés comme Rirache, un jeune homme de 23 ans originaire de Djibouti, qui a obtenu l'aide de passeurs.
Il m'a pris de prendre un chemin de fer. C'était très dur parce que il y avait un petit garçon qui était malade et sa mère ne pouvait pas le tirer comme ça. Il était assis, donc je l'ai pris et on a traversé, c'était très froid. Et si je fais retrouver la sécurité et continuer mes études, si ça se passe bien. Parce que là, j'ai pas où dormir, j'ai pas quoi manger et tout.
Et on croit qu'avec le retour du printemps, le nombre de personnes qui tentent l'aventure ne fera qu'augmenter.
Le sujet de la semaine pour vous, Charlotte Hydrac de RFI, ce sont des vidéos polémiques en République démocratique du Congo.
Oui, des images devenues virales sur les réseaux sociaux. Sur l'un des films, on voit par exemple de présumés militaires, en tout cas des hommes en uniforme, tirer sur des civils, parfois à bout portant.
Tirez ! Achève-le ! Achève-le ! Achève celui-ci ! Et celui-là, là, celui-ci n'est pas mort.
Et puis, gros plan sur les corps des hommes, des femmes et des enfants munis de bâtons ou de lance-pierres et portant les bandeaux emblématiques d'une milice active au Kasaï, dans le centre de la RDC, un groupe en conflit avec le pouvoir central. L'ONU, l'Union européenne, les États-Unis, la France aussi ont condamné ces violences et demandé à Kinshasa d'enquêter. Le gouvernement congolais a d'abord dit non, pas question, et dénoncé un montage grossier avant de changer de cap, d'envoyer une commission sur place et de lancer un appel à témoins. Lambert Mende, le ministre congolais de la Communication.
C'est celui qui accuse qui doit amener les preuves. Et nous lançons un appel à témoins. Quiconque, à Mbujimaï ou à Kananga, a été témoin ou victime des faits que l'on voit sur ces images, est appelé à les dénoncer pour aider à la manifestation de la vérité.
Et avant même la diffusion de ces vidéos, la mission de l'ONU en RDC s'inquiétait d'un usage disproportionné de la force par les militaires au Kasaï.
En France, bis repetita, soupçon d'emploi fictif dans la campagne présidentielle. Il s'agit cette fois du Front National. Les emplois concerneraient des assistants payés par le Parlement européen alors qu'ils travaillaient pour le parti. C'est le cas de Catherine Griset, laquelle a été mise en examen. Thierry Légier, garde du corps de Marine Le Pen, aurait quant à lui produit un contrat de travail purement fictif. Sur TF1, mercredi dernier, Marine Le Pen dément.
Je conteste formellement les faits qui nous sont reprochés. Tout cela, en réalité, va suivre son cours, très bien. Mais je pense que pendant le temps de la campagne, eh bien, il faut s'attacher à répondre aux préoccupations de la campagne. La justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Et donc, elle ne doit pas venir perturber la campagne présidentielle, car c'est un moment démocratique fondamental pour notre pays, et particulièrement cette campagne présidentielle qui vient.
Les Français savent exactement faire la différence entre les vraies affaires et les cabales politiques, ils le savent pertinemment, a dit par ailleurs Marine Le Pen. Reste à savoir si elle remboursera la somme qui lui est réclamée, 339 946 euros, somme correspondant au salaire versé à Thierry Légier en 2011 et à Catherine Griset de 2010 à 2016. En l'absence de remboursement, l'Assemblée européenne devait commencer mi-février à recouvrer ces sommes en amputant de moitié l'indemnité de l'eurodéputé. En Belgique, Nathalie De Vic, une découverte scientifique a fait le tour du monde.
On la doit pour beaucoup à deux astronomes de Liège, en Wallonie, Michael Gion et Emmanuel Jehin. Pendant 6 ans, ils ont scruté l'espace avec acharnement et leur travail a payé puisqu'ils ont fini par découvrir le plus grand système de planètes de taille terrestre jamais détecté autour d'une même étoile. 7 exoplanètes au total, dont 3 se trouvent dans une zone dite habitable, à juste bonne distance de cette étoile ultra froide qui leur offre du coup des températures parfaitement compatibles avec la présence d'eau et donc de vie, comme l'espère Michael Gion.
On va vraiment pouvoir étudier l'atmosphère de ces planètes, contraindre leur composition, mais aussi chercher la présence de différentes molécules qui pourraient être d'origine biologique et peut-être arriver à la conclusion il y a de la vie sur une de ces planètes. Donc c'était de la science-fiction il n'y a pas encore longtemps et là on est en plein dans la réalité, donc c'est extraordinaire.
Une avancée majeure annoncée par la NASA, fruit d'une collaboration internationale, mais aux saveurs bien belges. Spéculoos et TRAPPIST, c'est ainsi qu'ont été baptisés le programme et le télescope installé au Chili, mais actionné depuis la Belgique. C'est lui qui a permis cette découverte et donné son nom à l'étoile TRAPPIST-1, au prix de beaucoup d'énergie pour trouver d'abord les subsides, rappelle Emmanuel Jehin.
Il a fallu convaincre beaucoup de monde pour nous donner les moyens de construire ces télescopes, le télescope TRAPPIST, donc de l'Université de Liège. Il y en a au Chili, il y en a au Maroc maintenant. Et Michael Gillon a obtenu un grant européen pour pouvoir construire encore plus de télescopes, ces 4 télescopes de 1 mètre qui seront installés bientôt dans le désert d'Atacama au Chili pour surveiller 1000 de ces types d'étoiles pour trouver encore plus de systèmes planétaires.
Un enthousiasme à tempérer sans doute, vu la distance. Ces planètes gravitent à près de 40 années-lumière de nous, inatteignable aujourd'hui, mais qui sait plus tard. Les chercheurs vont à présent analyser le climat de ces planètes, espérant répondre à cette éternelle question d'une possible vie ailleurs dans le grand univers. Ils estiment que l'on devrait être fixé d'ici une dizaine d'années.
Merci Nathalie De Vic, Charlotte Hydrac, Pierre Anchoffa et Benoît Audet. L'actualité francophone, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Vous pouvez nous retrouver sur le site lesmediafrancophones.org.